tout dire. Étant entendu qu'on ne dira jamais tout. D'abord, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on les ignore, tout simplement. Il y en a d'autres qu'on ne dira pas parce qu'on les a oubliées. Il y en a d'autres encore qu'on ne pourra pas décemment dire, simplement parce que ça mettrait en cause, de façon par trop désagréable ou pénible, les tierces personnes. Donc on n'est tout de même pas en droit de le faire. Et puis aussi, parce que idéalement, il faudrait tout dire, certes, mais tout dire, une vie n'y suffirait pas. Même pour raconter une journée, enfin tout dire, ça veut dire comment je me suis réveillé, comment j'ai satisfait mes fonctions naturelles, comment j'ai mangé, à quoi j'ai pensé dans l'autobus ou ailleurs, etc., etc. Je ne sais pas si vous connaissez ce beau livre de Michel Butor, qui s'appelle « Degré », qui est un livre que j'aime beaucoup, parce que ça montre ce genre d'impossibilité. Je vous rappelle le thème, il s'agit d'un homme qui est professeur. Lui vient cette idée, un beau jour, il a un de ses neveux parmi ses élèves, ce qui crée une situation gênante. Et c'est gênant aussi bien, et même peut-être plus encore pour le neveu, qui peut être accusé en fait d'être favorisé injustement, que pour lui. Donc ça trouble ses rapports entre l'oncle et le neveu. Et l'oncle a un beau jour l'idée qu'après tout, peut-être qu'en racontant une heure de classe, à l'intention de son neveu, il pourrait assainir leur rapport. Et il s'aperçoit que raconter une heure de classe, et la raconter honnêtement, c'est-à-dire en disant tout, c'est proprement impossible. Et il y a des élèves qui sont en cette classe. Eh bien, la veille, ou même une heure avant, ils suivaient un autre cours. Donc, ils avaient encore plus ou moins dans la tête cet autre cours. Il faut donc parler de cet autre cours. Il y a aussi le cours auquel ils iront ensuite, qu'il faudrait raconter. Et alors, ça peut être un cours de mathématiques. Bon, alors, il faut faire un exposé de mathématiques, etc., etc. Chacun de ces élèves est un individu qui a sa famille et qui en même temps peut penser aussi à ce qui se passe chez lui, ou est en tout cas déterminé par l'éducation qu'il a reçue, etc. Donc c'est finalement rigoureusement impossible, et ce professeur, cet honnête professeur, finit par en mourir de cette entreprise folle dont il n'a jamais pu se déprendre. À ce point de vue, ça c'est un gros service que Freud m'a rendu littérairement avec son livre « La psychopathologie de la vie quotidienne » quand il étudie les lapsus, les actes manqués, etc. Et qu'il montre l'énorme signification que peuvent avoir des faits en apparence dérisoires. Ça m'a servi beaucoup. Et alors, si on lit attentivement la règle du jeu, ben on s'aperçoit qu'il y a des quantités de faits de ce genre, enfin presque des anecdotes, je dirais, qui apparaissent ça et là. Et c'est au fond autour de ça que tout s'est ordonné. D'abord, une double chose, restituer ces faits autant que possible dans leur vérité, ça, même pour moi, pour qu'ils ne soient pas perdus, pour qu'il y ait une permanence, parce que la chose qu'on oublie, c'est une chose morte. Et c'est très détestable, enfin, de sentir qu'on est entouré de choses mortes. Et si on parvient à écrire, enfin, à donner forme littéraire à quelque chose qui vous est arrivé, cette chose persiste. Là, j'arrive un petit peu à l'idée proustienne, pas exactement du temps retrouvé, mais qu'au moins, qu'il y ait certaines choses qui soient tant soit peu fixées, et qu'on est ainsi tant soit peu en sa possession.
Un prévoyant qui toute sa vie a songé à sa descente au tombeau, mais n'avait pas prévu quel supplice serait le lent enlisement. Le même qui, honteux d'être un sans-cœur trop occupé de soi, aimerait s'oublier comme, quelque part, on oublie son parapluie. Un dilettante volé dont il aurait fallu que la vie s'achève sur un grand final d'opéra. Un déguisé pour le bal masqué auquel l'art le convie. sur une tombe, la mienne, on dépose en guise d'épitaphe une pancarte contenant un résumé en quelques lignes de la vie du défunt. Cette pancarte est intitulée « Argument ».
Pour Michel Léris, signe de vie, par Jacques Munier, avec Florence Delay, Louis-René Desforêts, Jacques Dupin, Denis Ollier, Jean Jamin, Jean Lescure, Denise Paulme Scheffner et Jean Schuster. Texte extrait de L'Afrique fantôme, Miroir de la tauromachie, Nuit sans nuit, L'âge d'homme, Glossaire, La règle du jeu, Bacon le hors-la-loi, écrit sur Georges Bataille, Brisé, Image de marque, Le ruban au cou d'Olympia. Texte lu par René Farabet, Andrea Schiffer et Jean-Pierre Santier.
Seul, je sens mon cœur, je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus. J'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a jeté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions.
Merci à Yves Builly pour les archives de l'INA. Merci également à Paul Chavas, Marc Floriot, Roger Pilaudin, Pierre Cipriot, Marion Thibat et Roger Vrigny, producteurs des émissions dont nous avons extrait les propos de Michel Léris. Groupe de réalisation, Noélie Louis-Marie, Jean-François Ginouves et François Bréhigné.
Parce qu'à ne pas mourir, on s'ennuierait à mort. Parce que ce monde trop absurde ne mérite pas qu'on s'y arrête. Parce que la pluie tombée ne remontera qu'en vapeur. Parce qu'aucun fleuve ne coulerait s'il ne se jetait dans la mer.